pour ne pas perdre de temps, on va tout de suite passer la parole à Luc Pabeuf, hein, qui va nous revenir sur l'innovation sociale.
Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis coporteur de la chaire, alors Chrysalide, ça veut dire centre de ressources, c'est tout un programme, pour l'innovation sociale, par l'action locale et ses initiatives, pour le développement humain. C'est sans doute ce qui a amené Annie et Alain à penser que j'étais tout indiqué pour répondre à cette question sans faire dans l'essentialisme, sans en faire dans un nominalisme qui laisserait entendre qu'il y aurait une vérité de ce qu'il faut entendre par là. Parce que je souscris pas mal aux propos de Patrick, avec lequel je partage ainsi qu'avec Annick et Alain un certain nombre d'affinités, je pourrais dire électives, même si, pour le coup, son propos assez critique sur la frénésie de citations risquerait de me mettre mal à l'aise, eu égard au fait que je vais pas mal citer. Mais je vais peut-être citer parce que, à la différence de son statut de professeur autorisé, puisque Patrick vous le dit, il est de formation de sociologue, il en a aussi le titre académique. Je ne suis pas, pour ma part, issu de la communauté académique, un peu comme le signifiait tout à l'heure Annie, qui a été une praticienne de la communication. J'oserais presque me qualifier d'avoir été un praticien du changement, marqué, si je dois faire des références à des disciplines, plutôt par une formation initiale dans le champ des sciences de la vie et de la terre, mais un apprentissage de la philosophie qui m'a fait rencontrer des formateurs, des enseignants comme Alain Renaud qui m'ont marqué, ou comme dans le champ de la psychologie sociale qui furent mes premières études, un certain Alexandre Letellier, mais très vite un engagement d'acteur, on dit en français militant, j'aime bien l'expression anglaise d'activiste qui renvoie à la notion d'acteur, c'est-à-dire d'un acteur social impliqué, engagé, et puis qui face aux événements de la vie a été amené à réviser un peu ses convictions, voire ses certitudes. Et d'une certaine manière, ce n'est pas un hasard que je vous tienne ce matin, eu égard à cette trajectoire personnelle, que je vous tienne le propos que je vais vous tenir maintenant. Et je pense qu'il est toujours important de savoir sur ces questions-là, comme on disait à une époque, d'où on parle. Alors voilà, vous savez à peu près d'où je parle, et on pourra échanger pour en préciser aussi la trajectoire. Alors, le titre de mon intervention, « De quoi l'innovation sociale est-elle le nom ?» certains peut-être auront reconnu l'inspiration d'un épisode de la conversation scientifique du samedi après-midi d'Étienne Klein, où il y a quelques années, un épisode s'intitulait « De quoi l'innovation et pas sociale est-elle le nom ?» Il invitait alors le philosophe de la technique, Vincent Bontemps, auteur d'un article intitulé « What does innovation stand for? Review a watchword in research policies ?» Ce qu'on pourrait à peu près traduire par « Que signifie l'innovation ?» De quoi est-elle le nom ?« Passage en revue d'un mot d'ordre dans les politiques de recherche. » Alors ceux qui sont intéressés par cette genèse du mot « innovation » et son analyse critique pourront se rapporter au podcast de France Culture, toujours accessible, mais mon propos, bien que s'inspire du titre, est assez différent. Alors Vincent Bontemps, dont je disais, il évoque le mot d'ordre d'innovation sociale, d'innovation, pardon, Vincent Bontemps n'est pas le seul à identifier le mot innovation à un mot d'ordre. Benoît Godin, un chercheur que certains connaissent, de Montréal, qui a étudié l'histoire de cette notion, considère que derrière cette expression, on trouve souvent un slogan, rien qu'un slogan. Aussi pourrions-nous être conduits à penser que l'expression innovation sociale, donc le mot social venant compléter le slogan innovation, ne serait rien d'autre que le signe d'un élargissement à l'ensemble de la vie sociale, de l'injonction à innover qui prospère dans quasiment tous les discours qui promeuvent la performance économique. Dans cette émission, Bontemps et Étienne Klein faisaient référence à ce qu'on appelle la littérature grise, notamment européenne, ou dans des documents stratégiques, on va utiliser plus de 350 fois le mot innovation, sans jamais le définir, mais le terme progrès disparaît, le mot innovation est à tous les étages.
Alors, au sens où nous l'entendons communément aujourd'hui, le mot innovation relève du champ économique. On l'associe si bien à la théorie économique de Schumpeter qu'il appartient désormais, comme le rappelle l'économiste Bernard Paul Rey, à un fonds d'analyse commun exploité aussi bien par les économistes orthodoxes qu'hétérodoxes. Alors là, je précise, je contextualise, c'est une des nombreuses citations que je ferai, pas par frénésie, mais par souci d'argumentation. Et puis j'essaierai de ne pas me contenter de citations de surface, mais d'essayer d'aller un peu dans le cœur de leur signification pour voir comment, justement, aussi, à travers la mise en dialogue de certains auteurs, se construisent le sens de certaines notions. Dans ces conditions, celles de ce rattachement et de, je dirais, cette mainmise du terme innovation par le champ économique, il serait donc tentant de ne voir dans le succès de l'innovation sociale que le triomphe de ce qu'on appelle l'économicisme, c'est-à-dire de la contamination idéologique de toute la sphère sociale par l'esprit de l'économie dominante. En effet, parce qu'elle désigne pour l'essentiel une nouveauté techno-économique, c'est encore Paul Rey qui parle, constituant le plus souvent une rupture par rapport aux objets, ressources et aux procédés existants, la notion d'innovation sociale renvoie, nous dit-il, à une activité qui se déploie pour sa majeure partie, la notion d'innovation renvoie à une activité qui se déploie pour sa majeure partie, de bout en bout, au sein du système économique. De façon un peu trivial, j'oserais la formule suivante. On pourrait dire que de même que la preuve du pudding, c'est qu'on le mange, la preuve de l'innovation, c'est qu'on l'achète. Ça, c'est l'esprit d'innovation dans le monde économique. Autrement dit, l'innovation désignerait toute invention adoptée par le marché. On identifie dans ces conditions très bien le risque, en parlant d'innovation sociale, d'assimiler l'émergence de nouvelles pratiques sociales à l'adoption de nouveautés technoscientifiques et d'enfermer ainsi la question de l'innovation sociale dans des considérations essentiellement technologiques ou marchandes. Pourtant, comme le rappelle encore Bernard Paul Rey, le mot « innovation » a aussi été utilisé, en sociologie notamment, dans son sens originel d'introduction d'une nouveauté. Et nous allons voir avec Benoît Gaudin, que j'ai déjà cité, que ce terme n'a pas toujours été pensé comme relevant de la sphère économique, ce qui nous incline à penser a fortiori que l'expression « innovation sociale » peut désigner autre chose que la domination du raisonnement économique sur l'analyse des processus de transformation sociale. Mais alors, la question reste entière, de quoi l'innovation sociale est-elle le nom ? Et on est là pour ça. Contrairement à une idée répandue, l'expression « innovation sociale » n'est ni récente, ni postérieure à l'expression « innovation technologique ». Il n'y a pas eu d'innovation technologique, puis d'innovation sociale. L'examen d'un important corpus constitué au fil de ses recherches a conduit Benoît Gaudin à établir que la notion d'innovation sociale est ancienne de presque 200 ans et est donc apparue un siècle avant celle de l'innovation technologique à laquelle elle renvoie aujourd'hui, à laquelle renvoie implicitement aujourd'hui l'usage du mot « innovation ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'innovation, on pense aux objets techniques, à nos smartphones, etc. Dans un ouvrage anglais de 1858, le réformateur social ou socialiste du XIXe siècle est appelé un innovateur social, rappelle Gaudin. Et il dit même qu'une édition populaire de l'Encyclopédie Britannica, datée de 1888, inclut un long article sur le communisme qui commence comme suit « Le communisme est le nom donné au projet d'innovation sociale » qui ont pour point de départ la tentative de renversement de l'institution de la propriété privée. Ainsi, la notion d'innovation sociale, nous dit-il, émerge-t-elle initialement dans le registre politique du changement social ? Mais son usage est plutôt le fait de ses détracteurs. Car comme il le souligne, le mot « innovation » lui-même, dont l'usage se répand dans le contexte religieux de la réforme anglicane, est porteur d'une connotation essentiellement politique et négative. Avant le XXe siècle, dit-il, l'innovation était un vice, quelque chose d'explicitement interdit par la loi et utilisé comme une arme linguistique par les opposants au changement. Ainsi, poursuit-il, les monarchistes des XVIIe et XVIIIe siècles accusaient les républicains d'être des innovateurs. La notion d'innovation relève donc bien, dans cet usage, d'un projet politique, comme le précise encore Benoît Gaudin, au XIXe siècle, l'innovation est un changement dans l'ordre établi, un changement qui est intentionnel, un changement qui apporte un changement radical ou transforme de façon révolutionnaire la société. Vous trouverez tout cet article dans un numéro de la revue Quaderni, qui, si je ne m'abuse, est une revue de la Fondation de la Science. Mais comme l'exprime dès le milieu du XIXe siècle Edgar Quinet, dans son Histoire critique de la Révolution française paru en 1865 sous le titre de La Révolution, je cite Quinet, « Il fallait que la Grande Révolution passât, sans que l'Église s'en aperçût, que tous les rapports fussent changés, sans que la religion, qui est la réunion et l'âme de tous les rapports, eût à souffrir d'aucun de ces changements. Il fallait par exemple ôter au culte les actes civils, sans que le culte en sût rien. Que la nation fût régénérée sans que la religion, qui est la conscience morale d'une nation, en fût instruite. Renouveler toutes les lois, sans que la religion, qui est la substance même des lois, en reçût la moindre atteinte. Il fallait que l'innovation s'accomplît, sans que le génie du passé eût le moindre soupçon qu'il entrât quelque chose de nouveau dans le monde. » Ainsi aussi, comme le soulignera Claude Lefort, dans sa préface à la réédition de 2009 de l'ouvrage de Quinet, alors même que la révolution, nous dit Lefort, mérite son nom parce qu'elle est en son principe radical, qu'elle tend à beaucoup plus qu'un changement dans les rapports de propriété, parce que, dit-il encore, les hommes ont un moment cessé de croire que les horizons du monde dans lequel ils vivaient étaient naturels, indestructibles, que le désir d'agir s'est emparé d'eux avec l'imagination de l'avenir, eh bien, en dépit de cela, Quinet constate amèrement que l'histoire dominante de la Révolution française présente les hommes de la Révolution, comme il dit, comme autant d'automates de la fatalité. Ce constat aide à comprendre que si l'usage du mot « innovation » a connu un certain succès chez les détracteurs du changement social, il est en revanche demeuré peu usité dans le champ des réformateurs et des révolutionnaires pourtant acquis au changement social. Comme le précise Godin, dans l'article déjà abondamment cité, l'innovation est un changement intentionnel, par opposition au changement qui est naturel ou le fait de Dieu. Or, si nous pouvons admettre avec lui qu'à partir du XIXe siècle, l'innovation a commencé à faire référence à la valeur centrale du progrès, les deux notions n'en sont pas pour autant synonymes. La notion d'innovation porte attention à l'événement par lequel le changement advient. Et celui-ci y est conçu comme expression du pouvoir d'agir des femmes et des hommes, mus par l'intention de changer la société, ou même tout simplement de faire société. La notion de progrès, elle, porte attention à la marche de l'histoire, et celle-ci y est conçue comme un processus de changement social automatiquement orienté vers une amélioration continue de la condition humaine. Dans cette perspective, comme l'exprimera l'historienne Michèle Rio-Sarcey, c'est par la force des choses qu'advient le changement, et pas par l'initiative libre, intentionnelle et créatrice de ceux qui aspirent au changement. Je la cite à partir de son ouvrage « Le procès de la liberté », une histoire souterraine du XIXe siècle en France, parue en 2016. Elle dit « L'avenir des plus démunis est tracé. Devenir propriétaire et accéder à la liberté collective, selon la loi du progrès et au rythme de la force des choses. » Toute idée d'émancipation ou simplement tout projet d'échapper à une domination que commande le système positif, au sens de la philosophie positive, apparaît déplacée. Avec bien sûr des nuances, poursuit-elle, des contradictions, des oppositions et des conflits, toute une gamme d'interprétations de l'histoire immédiate converge donc au cours des premières décennies du XIXe siècle dans le sens d'un progrès porté par les forces nouvelles. De Thiers à Lamartine, de Saint-Simon à Guizot, de Benjamin Constant à Alexis de Tocqueville, chacun contribue à façonner la doxa qui constituera bientôt la loi de l'histoire. On comprend alors pourquoi, à la fin des années 1930, Walter Benjamin, en quête des origines de la catastrophe européenne, qu'il attribue précisément à la philosophie du progrès, retrouve un des pères fondateurs en la personne de Saint-Simon et de ses disciples. Retrouvons Claude Lefort et sa préface à la Révolution de Quinet, pour compléter cette analyse. Si loin qu'ils paraissent des libéraux, par l'espoir qu'ils mettent dans une religion nouvelle et par leur souci du sort des classes populaires, si loin qu'ils paraissent également des socialistes, par leur adoration de la hiérarchie, Saint-Simon et Comte, nous dit Lefort, se montrent aussi étrangers à l'esprit de la Révolution, aussi peu sensibles à l'idée de la liberté de conscience et à celle de la démocratie. Épuisons chez Quinet encore des mots qui expriment combien cette religion du progrès s'écarte de l'idée de révolution à laquelle est pourtant associée au XIXe siècle la notion d'innovation sociale. On sent trop que nos théories, dit Quinet, sont nées exclusivement des sciences physiques et mathématiques, d'où une ignorance presque absolue de l'homme moral qui n'existe pas pour elle. Quand on traite les hommes comme une équation, il est aisé sans doute de résoudre le problème, mais on peut arriver aux plus grands égarements sans être averti jamais par un cri de nature. Saint-Simon, Auguste Comte ne font que rétablir la tyrannie spirituelle sous un autre nom. Quand ils ont fabriqué une religion, écrit Quinet, ils exigent que l'esprit s'incline et ils lui contestent l'examen. Vous les croiriez pleins d'avenir, les voilà qui retournent au Moyen-Âge, ils n'ont pu s'émanciper même par les rêves, cerf-volant qui perce les nues, une ficelle invisible les retient. Du haut des airs, ils ont rejeté en un clin d'œil dans l'ancien gouffre. Ils y restent empêtrés, ils y rampent, n'allez pas les en arracher. Si l'on admet, avec Benoît Gaudin, que la formule « innovation sociale » émerge au XIXe siècle, en exprimant, comme je l'ai déjà mentionné, la notion de changement radical et de transformation révolutionnaire de la société, il nous faut alors reconnaître qu'elle est, d'une certaine manière, incompatible avec l'idée d'un progrès conçu comme un processus historique automatique. Si, comme l'a relevé Paul Ricoeur, les termes « moderne », »,« nouveauté », »,« progrès » marchent ensemble depuis deux textes cultes que sont les réflexions sur l'histoire des progrès de l'esprit humain de Turgot, date de 1749, et l'esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain de Condorcet, 1794, il convient de noter que l'acteur du changement est absent de cette triade « moderne, nouveauté, progrès ». En effet, comme l'a exprimé Pierre-André Taguieff, au cœur de l'idée moderne de progrès, il y a la conviction que tout ordre de succession, dès lors qu'il concerne le monde humain, en particulier dans la période dite moderne, est un processus ou un mouvement d'amélioration. Dans ces conditions, il n'apparaît plus nécessaire d'interroger la pertinence d'une nouveauté, qu'elle soit technique, artistique, organisationnelle, conceptuelle, pour en légitimer l'adoption. Son caractère de nouveauté, qui la situe dans l'ordre de succession du côté du plus récent, suffit à lui conférer une valeur positive. Les 19e et 20e siècles ont produit plusieurs avatars de cette idéologie du progrès calée sur la croyance en une histoire humaine nécessairement orientée vers le toujours mieux. Le positivisme d'Auguste Comte, on y a déjà fait référence, avec sa loi des trois états par lesquels sont censés passer toute pensée individuelle et toute société humaine, en est une manifestation. Une autre manifestation en est par exemple le modèle de Rostow, qui, avec ses cinq états de la croissance économique, stipule que toutes les sociétés doivent passer par les mêmes stades pour atteindre l'objectif ultime de développement que serait la société de consommation. Dans une perspective toute différente aussi, le socialisme de Marx, qui se veut scientifique, relève d'une conception déterministe de l'histoire qui s'inscrit elle aussi dans une téléologie du progrès. Ainsi écrit-il, dans la contribution à la critique de l'économie politique, que « dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. » Fermez la discussion. Après avoir régné son partage pendant presque deux siècles, ces diverses formes d'idéologie du progrès, ancrées dans une conception de l'histoire produite par une rationalité interne, je dirais, inhérente, comme dirait Michel Rio-Sarcey, à la force des choses, eh bien, ces visions, ces idéologies sont entrées en crise dès la fin des années 1960, inaugurant l'entrée dans ce que certains qualifieront, Patrick y a fait référence, de postmodernité. Plusieurs facteurs et événements cumulatifs peuvent expliquer cette crise. Dans l'introduction de son ouvrage « Au fondement des sociétés humaines », « Ce que nous apprend l'anthropologie », c'est le titre, Maurice Godelier témoigne que C'est au secours des dernières années des régimes socialistes, alors que les craquements se faisaient entendre de toutes parts et que l'on attendait soit qu'ils se réforment en profondeur, soit qu'ils disparaissent, que le monde intellectuel qui s'était mis en place après la guerre en Europe occidentale, avec le développement du structuralisme, du marxisme et de l'existentialisme, s'est mis lui aussi à craquer sous les assauts cumulés et les critiques de Jean-François Lyotard, Michel Foucault, Jean Baudrillard et de façon différente de Jacques Derrida et Paul Ricoeur. Lyotard avait défini, nous poursuit Godelier, cette nouvelle condition de l'existence et de la pensée comme étant celle qui s'affirmait après la mort de tous les méta-récits, c'est-à-dire de toute théorie qui prétend expliquer de façon globale, par l'action de causes dernières, les réalités historiques diverses vécues par les individus et les groupes qui composent une société. Les premières méta-théories, c'est encore Godelier qui parle, les premières méta-théories visées par Lyotard étaient évidemment le structuralisme de Lévi-Strauss et le marxisme. Quelques années plus tard, la chute du mur de Berlin faisait tomber le marxisme de son piédestal et le retour en force du sujet et de la subjectivation de l'individu reléguait l'analyse des structures dans l'univers des jeux abstraits, impropres à éclairer la complexité des réalités historiques et celle des identités individuelles. Or, après une longue occultation, la notion d'innovation sociale fait justement son retour dans cette période, comme en témoigne le numéro 5 de la revue que certains d'entre vous ici ont peut-être lu jadis, la revue Autrement, qui, à l'été 1976, paraissait sous le titre « Innovation sociale pour une révolution du quotidien ?» point d'interrogation. La question y était mise en débat avec les personnes intellectuelles d'envergure, comme Paul-Henri Chombard-Delot, Félix Guattari, Edgar Morin, Serge Moscovici, le père de celui qu'on connaît plus aujourd'hui, Jacques Attali, Isabelle Billiard et Léo Cher. Cette coïncidence est explicitée par les chercheurs du CRISE de Montréal, un des premiers centres interdisciplinaires à s'intéresser à la question de l'innovation sociale. Les chercheurs Juan-Louis Klein et Jean-Marc Fontan, qui indiquent que l'approche de l'innovation sociale est le résultat d'un virage consécutif à la transformation du rôle des acteurs collectifs qui signifiait un changement de perspective. Et il confirme qu'elle a émergé, cette nouvelle perspective, en syntonie avec les grands changements paradigmatiques qui traversaient le monde de l'époque, changements que Jean-François Lyotard a désignés comme ceux de l'époque de la crise des grands récits. Et je ferme la citation de Klein et Fontan. Un nominalisme quelconque, est illustré par ce propos de Crozier et Friedberg qui est tiré de leur introduction à l'acteur et le système paru en 1977. Reconnaître le caractère construit de nos modes d'action collective, c'est donc aussi reconnaître le caractère construit du changement. C'est reconnaître que le changement constitue un problème, non pas tant parce qu'il serait nécessaire ou difficile, que parce qu'il n'est pas naturel. Une telle réflexion sur le changement comme problème nous oblige tout d'abord à écarter un modèle de changement qui sommeille en chacun de nous, celui du réformateur autoritaire, du despote éclairé, qu'il soit technocrate compétent et soucieux du bien supérieur de la collectivité, agissant au nom de sa connaissance rationnelle des problèmes, ou qu'il soit commissaire du peuple, c'est Crozier-Friedberg qui parle, investi de la mission historique de guide du prolétariat. Il faut jeter aux oubliettes une fois pour toutes cette vision du changement, elle aussi héritée du XIXe siècle. Le changement n'est ni le déroulement majestueux de l'histoire, dont il suffirait de connaître les lois, ni la conception et la mise en œuvre d'un modèle plus rationnel d'organisation sociale. Il ne peut se comprendre comme un processus de création collective, à travers lequel les membres d'une collectivité donnée apprennent ensemble, c'est-à-dire inventent et fixent de nouvelles façons de jouer le jeu social de la coopération et du conflit. L'alternative aux formules de changement technocratique et ou autoritaire, poursuivent-ils encore, ne peut être que l'extension et la généralisation progressive de l'expérimentation. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. C'est dire que la transformation nécessaire, écrivent-ils, et souhaitable de nos modes d'action collective, met en jeu beaucoup plus que la simple découverte ou utilisation à d'autres fins d'une nouvelle technique, ou l'instauration de nouvelles procédures d'information, de prise de décision ou de désignation de responsables. Toutes les mesures prises dans ce sens ont leur utilité et leur importance, mais elles ne prennent toute leur place et toute leur signification que dans une stratégie de changement à travers laquelle doivent se développer l'innovation sociale, disent-ils, 1977, l'invention de nouveaux construits d'action collective, l'élaboration réussie et collective d'une nouvelle construction systémique. Un autre ouvrage, paru un peu plus tard, rend compte de ce recul des théories du changement, reposant sur une conception linéaire de l'évolution des sociétés. Il s'agit de l'ouvrage de Raymond Boudon, intitulé « La place du désordre », composé à partir de conférences que le sociologue a tenues entre 1979 et 1983, l'ouvrage commence par les mots suivants. De 1950 à 1980, les sciences sociales, sociologie, économie, sciences politiques ont produit un nombre considérable de théories du changement social. Ces théories ne constituent pas un ensemble homogène. L'impression générale qui prévaut aujourd'hui à leurs propos et dont beaucoup témoignent est celle de l'échec. Puis, citant les travaux du début des années 60 des anthropologues Salins et Service, il y écrit que la vision selon laquelle l'histoire de l'humanité tendrait sans possibilité de retour vers une sorte de point oméga est l'évidence irrécevable. Irrécevable aussi l'idée que toute société singulière doit s'aligner sur le cours général de l'histoire. Irrécevable encore le principe selon lequel les différentes composantes de l'évolution devraient marcher au pas. Pour toutes ces raisons, une conception linéaire de l'évolution, conception pratiquement indistincte de ce que dans un registre linguistique moins savant et plus populaire on appela au XIXe siècle le progrès, est selon Salins et Service insoutenable. Fermez la citation, des guillemets. Et encore, pour ajouter, dans sa préface à la réédition de 2004 de l'ouvrage, il précise encore son propos. L'autonomie de l'acteur et l'imprévisibilité des innovations vraies, dit-il, sont des facteurs qui rendent le changement social difficilement prévisible. J'ai voulu signaler l'importance de ces idées par mon titre, La place du désordre. Contre une idée reçue qui veut que science et prévision soient indissociables, le changement social peut être analysé scientifiquement à condition de reconnaître qu'il est largement imprévisible. La place du désordre n'est pas toujours reconnue. Cela est dû à ce que ces données paraissent incompatibles avec le postulat du déterminisme, lequel est souvent considéré comme constitutif de la science. Ce préjugé, ainsi que la nécessité de tenter de réduire les incertitudes de l'avenir en vue de l'action, ont engendré des représentations simplificatrices du changement social, où le déterminisme et les structures se voient accorder trop de place et le désordre pas assez. Alors bien sûr, entre le moment où la notion d'innovation sociale émerge, dans l'effervescence révolutionnaire du XIXe siècle, celui de sa réapparition, d'abord militante, des années 70, je rappelle que c'est le contexte des mouvements en faveur de l'autogestion, du développement local. On peut se référer au travail de Magali Zimmer, un travail de thèse sous la direction de Jean-Louis Laville sur ce sujet. Puis aussi dans les années 70 et un peu après, la réapparition plus théorique, voire épistémologique de la notion d'innovation sociale. Je viens d'en donner un aperçu. Puis entre ces moments-là et enfin l'usage banalisé dans un 21e siècle placé sous le signe de l'injonction à innover, nul doute qu'entre ces différents moments, la signification de l'expression « innovation sociale » s'est transformée. Selon qu'elle est utilisée par des acteurs acquis à la conservation de l'ordre social existant, mais néanmoins désireux d'adapter cet ordre social à de nouveaux enjeux, développement durable, transition énergétique, climatique, etc., ou bien selon qu'elle est utilisée par des acteurs convaincus de la nécessité de renverser cet ordre social, la notion d'innovation sociale désignera certainement des réalités fort différentes en termes de dynamique collective, d'ambition et de radicalité. Plutôt que de décrire cette diversité, j'ai préféré à m'intéresser à l'origine de la notion, pas tant au sens de sa genèse que de ce qui en constitue la singularité, une singularité certes mouvante, mais à mes yeux toujours fertile. Alors pour conclure, j'évoquerai brièvement Walter Benjamin, on a déjà parlé à travers Michel Rio-Sarcey, en disant simplement que j'ai peut-être essayé d'attiser dans le passé l'étincelle de l'espérance en tentant de m'emparer d'un souvenir tel qu'il surgit à l'instant du danger. Car le danger est bien là. celui de renoncer à changer un monde qui semble courir à sa catastrophe, celle que regarde l'ange de l'histoire du tableau de Paul Klee et dont nous parle Walter Benjamin. Car tout l'enjeu de l'innovation sociale est bien là, retrouver du pouvoir d'agir pour produire nos utopies réelles et échapper à la catastrophe.
Merci.